Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une histoire parue dans Télérama. Ariane, mère de deux adolescents, dont l'un est handicapé, revient d'une semaine passée au chevet de son compagnon. Il vient d'avoir un accident de voiture. Il a été hospitalisé dans un état grave. Du coup, Ariane elle-même n'est pas en grande forme. Il ne lui reste que quelques jours avant de retourner travailler et ses vacances se sont résumées à cette semaine à l'hôpital. Elle est épuisée, inquiète, désemparée. En temps normal, Ariane travaille dans une grande entreprise où elle s'occupe de communication. Ce soir-là, tandis qu'elle marche dans la rue, pour le moins accablée, elle sent soudain son souffle se couper. Elle a du mal à respirer, elle se sent perdue, elle perd pied. Elle est clairement en proie à une crise de panique qui l'a conduit, à la suite d'une série de mésaventures, à se réfugier, transie de froid, sur un toit. Ariane n'a aucun antécédent en psychiatrie. C'est une femme fatiguée, au bout du rouleau, paniquée. C'est tout. Rapidement, la police intervient. Ariane est plaquée au sol, menottée derrière le dos et traînée par les pieds jusqu'à un fourgon de police. Elle est internée d'office à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, sans que personne ne semble entendre la moindre de ses protestations. Un traitement lourd lui est administré sans son consentement. Le cauchemar durera un mois. Selon une étude publiée dans la revue de l'Institut de recherche et de documentation en économie, signée Magali Coldefi, ce sont pratiquement 100 000 personnes qui ont vécu un cauchemar plus ou moins semblable en 2016. 92 000 précisément, internés, sans leur consentement. Soit 12 000 de plus qu'en 2012 et deux fois plus carrément qu'en 2006. Plusieurs raisons expliquent ces chiffres affolants. La première, notamment, c'est l'apparition d'un nouveau mode de placement sans consentement ni demande d'un tiers, appelé admission en soins psychiatriques pour péril imminent. D'autres formes de procédures d'internement à domicile se sont également multipliées, qui excluent l'accord du patient. Autant de formes extrêmes donc de coercition qui peuvent durer quelques jours, parfois des mois. Deux histoires viennent aujourd'hui témoigner de cette menace terrible et grandissante sur nos libertés. Elles sont racontées par Émilie Chaudet, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Jean-Pascal Michel, j'ai une cinquantaine d'années maintenant, et je suis domicilié dans l'Hérault. Et puis je me suis engagé dans les faucheurs volontaires, participant à des actions de fauchage au niveau national. À l'époque, c'était surtout le maïs Monsanto 810. Je devais avoir une trentaine d'années. Et là, j'ai appris le militantisme sur le terrain, en fait. Et donc, sur la zone de la commune où j'étais installé à l'époque, en 2012, sur la commune de Loupian, il y avait une zone qui était à classer, mais le maire s'y opposait, pour des raisons absolument incompréhensible.
Qu'est-ce qu'il vous disait ?
Ben, il disait rien. Il disait rien, c'est bien pour ça qu'à un moment, j'ai fait une action d'éclat pour justement obtenir une réponse. Donc j'ai fait ma nuit le dimanche d'aide-soignant en maison de retraite et le lundi, j'ai fait ma sieste pour me reposer et le soir, je me suis dirigé vers la mairie avec mon cadenas de moto avec l'intention de m'enchaîner à une grille pour revendiquer, pour le lendemain, le classement de cette zone Natura 2000 par le maire, en essayant de l'obliger, quoi, un temps soit peu. Je suis arrivé peu avant 18h, et à moins 5, j'ai salué les secrétaires, et je me dis, voilà, je vais faire une action, j'ai expliqué, et puis je me suis dirigé, j'ai enjambé le parapet, je me suis cadenassé. Donc là, c'était un peu la stupeur. L'explication, elle était donnée, elle était claire. Hein. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté. C'était forcer Christian Turel, le maire socialiste de Loupian, à revenir en arrière sur sa décision de ne pas classer cette proposition de zone Natura 2000 sur l'embouchure de la rivière Le Palace. Et pour lui, il n'était pas question de revenir en arrière. Et ensuite, les gendarmes ont commencé à débarquer, quoi. Ainsi que les pompiers. parce que moi j'ai dit de toute façon il n'est pas question que je me détache de cet endroit tant que je n'ai pas une réponse en la faveur du classement de la zone. Hein. Ils ont essayé, ils ont un peu tiraillé, je leur dis c'est absolument pas la peine d'y songer, je suis indélogeable. Et il y avait un gendarme qui avait essayé avec sa matraque de me prendre ma clé, parce qu'il ne pouvait pas m'atteindre vraiment, j'étais un peu dans un renfoncement. Puis bon, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai pris ma clé, je l'ai laissé tomber dans le puits. Je lui ai dit, voilà, maintenant t'es bien avancé. Et là, il a répondu, oh le con, il a fait tomber la clé. Je lui ai dit, je vous avais prévenu, de toute façon, on est là pour discuter. S'il n'y a pas de discussion, je reste. Hein. Donc là, je crois que mon blocage a duré plusieurs heures. Donc là sont intervenus les pompiers avec une disqueuse, hein. Un pompier, pas 50, hein, parce qu'il n'y avait pas d'agitation de ma part. Il a coupé une section de la grille, hein. Il m'a libéré, je me suis libéré de la grille, et ensuite j'ai dit bah, c'est bon, je vais aller en garde à vue au chef, hein, je lui dis au chef des gendarmes. Il m'a dit non, on vous a réservé autre chose. Et là j'ai vu un monsieur qui remplissait des papiers au bureau d'une des secrétaires qui s'est présentée comme étant un médecin. Et là, j'ai dit, j'ai compris, vous allez me faire interner. Et là, j'ai commencé à discuter avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez quand même ce que vous faites, là. Il m'a dit, oui, mais je ne peux pas faire autrement, enfin, quelque chose comme ça. Et il a rempli un certificat médical de complaisance, de toute façon, par la pression du maire. Bah, moi, je me suis mis un petit peu en colère, là. Je me suis mis à gueuler, j'ai gueulé, quoi. Après, ça a été assez vite. Les types ont amené un brancard. Ils m'ont couché, ils m'ont sanglé. Ils m'ont mis dans un camion de pompiers. Et ensuite, le camion a démarré. J'étais avec deux pompiers. Et je ne savais pas où j'allais. Et moi, j'avais prévenu Sophie que je faisais une action.
Sophie,
c'est ma compagne. Que je sortirais le lendemain de la gendarmerie de Metz, probablement. Que je serais en garde à vue. Puis c'était tout, quoi, pour moi. Donc elle s'est endormie tranquillement. Elle n'était pas au courant. Et le lendemain, voyant que j'étais pas là, elle a commencé à s'affoler, quoi. Et moi, j'étais à l'hôpital psychiatrique de Montpellier, l'hôpital qui s'appelle La Colombière, voilà, où j'ai débarqué devant une infirmière de garde de nuit éberluée avec mon cadenas autour du cou. Entre deux pompiers, et je lui expliquais, je lui dis, vous savez, j'ai rien à faire ici, je suis militant écologiste, je viens de m'enchaîner sur une zone, enfin en mairie de Loupian, et moi je veux sortir tout de suite. Il m'a dit, mais oui, je comprends très bien, d'ailleurs j'ai pas envie de vous accepter ici, moi. Et ce sont les deux pompiers qui ont insisté pour que je sois gardé. Elle s'est exécutée, elle aussi. Ils m'ont débarqué dans une chambre avec mon cadenas, et ils m'ont mis sur un lit. Bon, moi je me suis laissé faire. Et là, ils ont appelé une brigade, enfin deux personnes, des pompiers de Montpellier, pour avoir une pince hydraulique pour couper mon cadenas. Et là, ils ont fait ça. Et ensuite, j'ai été entendu par la psychiatre de garde de nuit, ainsi que deux infirmiers, pour qu'ils remplissent mon dossier. Et je leur ai toujours expliqué la même chose, hein, que j'étais un militant écologiste et que je n'avais rien à faire ici, quoi. À partir du moment où est lancé l'arrêté d'internement du maire, où il y a un certificat médical, que je suis accueilli, contre mon gré déjà, dans une structure. Ils sont dans leur toute puissance médicale. Il n'y a pas vraiment de discussion, ni de tractation, ni de rien du tout. Là, on ne discute pas. On m'a demandé de me mettre dans une chambre. Il y avait une chambre à deux lits. Je m'y suis mis. Je me suis dit, je vais passer la nuit. Demain, je sors. Et dans la nuit, il y a une personne en souffrance qui est arrivée dans la chambre, une personne qui était dans la douleur. Donc moi, j'étais fatigué, je me suis dit, je n'ai pas envie de supporter ça, je me suis mis dans le couloir. J'ai dormi dans le couloir de l'hôpital jusqu'au lendemain. Parce que moi, je me suis dit, de toute façon, moi, je vais sortir et je ne veux pas m'intégrer, je ne veux faire aucune démarche de participation à mon hospitalisation. Je suis dans le rejet de cette situation, donc je ne participe à rien. Il y a eu le petit déjeuner que je n'ai pas pris, hein. Et même à l'entretien du psychiatre, je ne voulais pas participer. À partir du moment où on m'a demandé d'intégrer le lieu où il y avait l'audition de ce psychiatre avec sa cour, hein, sa cour d'interne et autres personnels, parce qu'ils étaient nombreux, hein, 5 ou 6, hein. Je suis resté, non, j'ai dit, moi je ne me déplace pas pour rencontrer ce monsieur, j'étais dans l'opposition. Et ils m'ont traîné carrément. Ils m'ont traîné dans la chambre, ils m'ont jeté par terre. Et c'est là où le médecin psychiatre Aguilar m'a demandé si j'étais un fou ou un militant. Ce à quoi j'ai dit, de toute façon, vu la façon dont vous m'avez traité là actuellement, et vu les questions que vous me posez, je n'offre aucune réponse à ce genre de demande. Moi, je me suis retourné contre le mur et j'ai dit, maintenant, je ne vous adresse plus la parole. Et puis c'est tout. Ça s'est passé comme ça. À partir de là, Aguilar a ordonné à son équipe de m'administrer immédiatement une double dose d'Aldol, qui est un psychotrope puissant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Quelques minutes après, une infirmière est arrivée avec un verre dont je supposais qu'il contenait la fameuse substance. J'ai refusé ce verre, j'ai dit non, je ne prendrai pas ce médicament. À la suite de quoi, là c'est un infirmier qui est intervenu, qui est venu vers moi avec une seringue pour m'administrer cette substance. Et là je me suis défendu, je lui ai sauté sur le grappin et là ils me sont tombés à trois dessus, trois ou quatre, et ils m'ont piqué de force et conduit immédiatement en lieu d'isolement. En un quart d'heure, je suis tombé complètement inconscient, quoi. Bah après, c'était le trou noir, hein, assez rapidement. Pendant au moins 5 jours. Hein, au moins 5 jours. J'ai eu deux visites, je crois. Qui sont d'ailleurs les deux visites obligatoires pour me signifier mes droits. Et c'est là où j'ai dit à la personne qui me demandait si j'avais pris connaissance de mes droits et si je pouvais signer cette lecture. J'ai dit, mais de toute façon, je ne peux pas lire et je suis dans un tel état. Mais je lui ai dit en ouvrant à peine les lèvres, parce que ce produit ne permet pas d'avoir une articulation. On est comme si on était sous, quoi. On parle en bafouillant, on bave. Et je lui dis, mais je ne suis pas dans un état de dignité qui me permet de regarder les choses objectivement et je suis trop shooté, quoi. Elle m'a dit, on va vous baisser les doses. Et c'est tout ce dont je me souviens. Je suis resté 9 jours à l'isolement, jusqu'à ce que mon dossier passe entre les mains d'une autre personne, qui était une psychiatre et qui a commencé de reprendre ma situation en main, parce qu'elle a arrêté le processus d'internement, on va dire, par sa volonté, quoi. Et sachant aussi qu'il y avait une pression militante derrière qui commençait à faire du bruit, il fallait demander à la préfecture la levée de cet internement. C'était le préfet qui décidait. Il n'y avait pas de droit de visite. Dans les premières heures et premiers jours, personne ne savait où j'étais. Personne, c'est-à-dire ni ma compagne, qui a été voir les gendarmes le lendemain pour dire « mais il est où ?» On ne sait pas. Donc là, elle a commencé de dire « Jean-Pascal a disparu ». Sophie a aussi laissé un message auprès de tous les copains et amis militants du secteur et aux faucheurs volontaires de France. Elle a laissé un message auprès de ces gens-là. Et là aussi, ces copains-là se sont mobilisés. Donc déjà, ils se sont déplacés. Ils ont interpellé maire, police, préfecture. Je crois que le mardi, il y a eu une occupation des faucheurs de la mairie de Loupian. Ils ont exigé des explications, que le maire téléphone à la préfecture, qu'on me libère tout simplement. Eh bien, je suis sorti, j'ai eu la levée de mon internement. Au bout de 9 jours, c'est quand même long. Hein. Il y a encore eu 4 jours ensuite de sas de décompression, pour que je recouvre un peu mes esprits, hein, de toute façon, que les effets des médicaments s'atténuent. D'ailleurs, ils se sont atténués, mais ils n'ont pas disparu tout de suite, hein, parce que là, j'ai eu par la suite pas mal de difficultés à réintégrer mes facultés cognitives, motrices aussi, hein, parce que j'avais des problèmes d'équilibre et de marche. Des pannes sexuelles, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur truc, mais ça n'aide pas. Sophie est venue me récupérer pour signer ma sortie. J'étais content de sortir, mais je n'avais pas récupéré toutes mes facultés intellectuelles. C'est ce que me disaient mes copains, ils me disaient « mais t'es à côté de la plaque ». Ça a été long. Dans un premier temps, les copains m'ont trouvé un avocat qui a entériné une procédure auprès du tribunal pénal pour faire tomber les arrêtés d'internement. Là, on a gagné. Bah, cet internement a été reconnu administrativement comme illégal. Et le certificat médical aussi. Voilà. Depuis lors, ça fait 5 ans que je n'ai pas repris la profession d'aide-soignant en maison de retraite, parce que ça m'interroge sur ce que moi j'ai subi et ce que je peux faire subir à d'autres personnes en maison de retraite. Donc pour l'instant, j'ai pris la distance. Actuellement, mes activités sont 100% militantes, hein, et 100% activistes. Hein, parce que moi, j'ai continué de militer localement. Après, j'ai fait une action anti-nucléaire. Immédiatement après, d'ailleurs, en septembre, on a bloqué un camion d'uranium sur Narbonne. Donc je suis très plus que jamais motivé et pacifié aussi. Pas du tout revanchard.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc, je m'appelle Valérie Dubois, j'ai 38 ans. Je suis secrétaire au rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours. Je me suis mariée en 2002 et nous avons vécu avec mon conjoint à peu près 8 ans jusqu'en 2007 où ça allait. Sauf qu'il est devenu violent. Parce qu'en début 2010, donc les violences, elles ont commencé à être régulières sur moi. Mais tant que ça ne me concernait que moi toute seule, je me disais que... Enfin, je cherchais une solution, mais je ne voyais pas l'urgence. Et puis jusqu'au 1er mai 2010, où effectivement, il s'en est pris aux enfants aussi. Et là, j'ai dû aller déposer plainte à la police, parce qu'en fait, je cherchais de l'aide. Parce que dans la même maison, je ne voyais pas comment j'aurais pu protéger très longtemps mes enfants des violences qu'il y a eu. Donc le lendemain, j'ai dû présenter les enfants à l'hôpital. Ils avaient constaté des ecchymoses sur les cuisses et au niveau du dos. Et effectivement, ils ont fait des certificats pour les enfants. Donc j'ai pris les certificats médicaux qui avaient été délivrés par les hôpitaux et je suis allée au commissariat et j'ai déposé plainte avec les certificats médicaux joints. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre en fait de traiter ma plainte et de nous proposer une solution en fait. À plusieurs reprises déjà, le médecin juste avant ça m'avait proposé d'aller voir un psychiatre en disant « Votre mari pense que vous n'allez pas très bien, ce serait bien que vous alliez voir un psychiatre. » Et je lui ai dit « Mais je ne vois pas l'intérêt d'aller voir un psychiatre. » Je ne voyais pas l'intérêt, en fait. Et c'est vrai que, par contre, en mars, effectivement, il y a une amie à moi qui avait découvert des documents dans la salle d'attente de notre médecin de famille. On avait un médecin de famille, c'était le même, avec mon amie. Et dans la salle d'attente du médecin, elle avait découvert des documents qui demandaient mon internement d'office.
Ces documents, ils étaient posés dans un endroit où tout le monde pouvait les voir ?
Oui, mais je pense que, je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est encore comme ça, mais ils les posent sur le guéridon dans la salle d'entrée.
Il peut poser des ordonnances, des...
Oui. Tout ce qui concerne résultats d'analyse des personnes, donc en fait on peut emporter le document de quelqu'un d'autre. Donc mon amie qui avait découvert les documents dans la salle d'attente du docteur est venue me les remettre. Et donc je les ai pris, j'en ai fait des copies et j'ai apporté les originaux au médecin. Et j'y suis allée, je lui ai posé la question simplement, il m'a reçue. Hein, et il m'a dit, mais votre mari avait l'air convaincant. Et je lui ai dit, je vous laisse les documents, mais ce sera entre vous et votre conscience. Et en sachant que moi, j'avais gardé des copies pour moi-même. Donc je savais maintenant ce qui se tramait, mais je ne pensais pas que ça irait jusqu'au bout, en fait. Donc 2 mois après ma plainte, donc mon mari est arrivé ce jour-là, le 11 juin 2010. Il est rentré du travail et il y avait derrière lui les policiers et les infirmiers qui étaient venus pour m'emporter. Et je suis allée à ma voiture pour ouvrir la voiture et prendre la plainte et les certificats pour les présenter aux policiers. Et je lui ai dit, regardez, ce sont des documents de chez vous. J'ai une plainte, vous ne pouvez pas laisser mes enfants avec l'auteur des violences. Le policier, donc, il n'a rien voulu entendre. Il m'a pris mes clés de voiture des mains, il m'a pris la plainte et tous les certificats avec, et il a pris mon téléphone. Il a tout confié à mon mari devant moi. Il m'a menotté, Et là, il m'a portée jusqu'à l'ambulance, en fait. Et dans l'ambulance, donc, il m'a pratiquement jetée dedans. Hein. Et puis, j'ai vu donc ma fille arriver, ma fille qui avait à l'époque 10 ans, juste devant les portes. Et là, elle avait le téléphone fixe de la maison. Mais en fait, elle avait couru chercher le téléphone fixe. Et elle était en train de me dire, mais maman, je fais comment, j'appelle qui? Et c'est la dernière image que j'ai eue. Après, ils ont fermé les portes. Voilà. L'ambulance m'a emportée à l'hôpital psychiatrique de Domaison, à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Là, on m'a emmenée directement en salle d'isolement. Donc, c'est une salle où tout est carrelé, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste un lit qui est scellé au sol. Et j'ai attendu là, alors c'est difficile d'évaluer le temps, à peu près une ou deux heures. Et jusqu'à ce qu'un médecin qui était de garde ce week-end-là puisse arriver, en fait. Lorsque le médecin est arrivé, on m'a amenée dans son bureau. Et puis, voilà, il m'a posé quelques questions. Il a regardé des documents, peut-être un dossier ou quelque chose. Et il m'a dit, on ne vous met pas de traitement. Il m'a dit, on vous met juste quelque chose pour dormir si jamais vous avez vraiment besoin. Et donc, ce monsieur, il ne m'a pas posé plus de questions que ça. Il a signé et puis il est reparti. Donc, je suis retournée à ma chambre. Et voilà, et je suis quand même restée 28 jours sans pathologie, sans soins, sans projet thérapeutique. Donc je ne faisais que manger, dormir, je me levais, je passais mes journées comme ça. Au moment où on appelait tout le monde pour prendre les médicaments, parce qu'on les met en rang, on disait, vous, Madame Dubois, vous n'avez pas de traitement, c'est vrai. Donc j'avais aucune sortie d'autorisée, aucune visite d'autorisée. Voilà, j'ai vu mes enfants une seule fois, mais dans des conditions dramatiques. Donc on a permis qu'ils viennent me voir et on a passé donc une heure ou deux dans une pièce avec un monsieur assis sur une chaise. On a pleuré les uns dans les bras des autres, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu se dire? Il n'y avait pas grand-chose à rajouter, en fait. Je demandais juste s'il mangeait correctement, si... parce que c'est moi qui m'occupais du quotidien des enfants, l'école, le vêtir, l'alimentation et tout. On a passé notre temps à pleurer. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à joindre des amis à l'extérieur. Dans un couloir, il y avait un téléphone auquel on vous laissait très rarement avoir accès. Et très souvent, quand vous étiez en train de parler, on prenait le téléphone et on raccrochait. Je l'ai utilisé, donc j'ai réussi à joindre quelqu'un à l'extérieur, des amis, qui m'ont dit, on va essayer de t'envoyer un avocat. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à me trouver un avocat en région parisienne. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il m'a dit, c'est très exceptionnel, mais il n'y a rien dans votre dossier. Il n'y a pas de certificat médical réglementaire et il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Et c'est comme ça qu'il a pris rendez-vous donc avec le juge des libertés de la détention qui nous a reçus. Et à ce moment-là, le médecin m'a demandé, mais vous prenez bien votre traitement, et madame? Et je lui ai dit, mais monsieur, regardez dans vos papiers, il n'y a pas de traitement. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais vous rigolez? J'ai dit, non, mais regardez bien, il n'y a pas de traitement. Et il a vérifié, il s'est levé, il est sorti, il est allé demander aux infirmiers qui m'accompagnaient ce jour-là au tribunal. Et les infirmiers lui ont dit, non, madame Dubois, elle n'a pas de traitement. Et c'est là qu'il est revenu, il m'a dit, mais vous dites la vérité. Et puis il s'est assis. Bon, mon avocat m'a regardé, il m'a dit, il m'a fait signe pour me faire comprendre que voilà, certainement j'allais sortir en fait. Et deux jours après, il y avait un fax qui tombait. Et donc ils ont patienté un petit peu, mais comme ils n'arrivaient pas à joindre le médecin, ils étaient obligés de me remettre le fax. Et c'est comme ça que je suis sortie. Et quand j'ai mis les pieds dehors, quand la porte s'est refermée derrière moi, j'avais qu'une hâte, c'était de sortir de cet endroit parce que je voulais pas qu'on puisse, enfin, qu'il y ait quelque chose qui fasse que je puisse pas sortir vraiment, quoi. Je voulais vraiment pas rester dans cet endroit-là. Donc, dès que je suis sortie de là, j'ai couru au centre aéré, j'ai vu ma fille, et sa réaction était très particulière parce qu'elle a même pas osé m'approcher. Elle est restée comme quelqu'un qui était figé. Et là, je lui ai dit, mais Crystal, c'est maman. Et je l'ai vue, elle a regardé autour, et puis elle est venue vers moi, comme si elle attendait une autorisation, en fait, pour s'approcher de moi. Et donc j'ai pris ma fille, je suis allée à la maison, c'était pas très loin du centre aéré. Et là, j'arrivais au moment où la dame qui avait gardé mon fils ce jour-là arrivait aussi à la maison. Et heureusement, parce qu'en fait, j'ai constaté juste après que mon mari avait fait changer les serrures de la maison. Donc pour lui, je ne revenais pas. Mon fils, dès qu'il m'a vu, il m'a dit « Ah, mais maman, on a une nouvelle clé !» Et c'est lui qui m'a donné la clé de ma maison. Et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle clé, des nouvelles serrures, je me suis dit « Je ne suis pas la bienvenue chez moi ». Donc je me suis dit, je vais prendre mes enfants et aller faire une main courante, et puis ce coup-ci, je vais aller me mettre à l'abri. Donc j'ai mis un petit peu de temps parce qu'il a fallu que je me reconstruise, parce que ça n'a pas été très très facile. Et donc j'ai assigné mon mari et le médecin au tribunal pour faux et usage de faux. Et ils ont fini par être condamnés en première instance à du sursis et une amende à payer. Alors en première instance, mon mari avait pris 6 mois de sursis et le médecin par contre avait été exempté de toute peine. Reconnu coupable de tout, mais exempté de toute peine. C'était vraiment scandaleux. Voilà. Et par la suite, ils se sont pourvus donc en appel. Et là, ils ont perdu une deuxième fois. Et ça a été alourdi. Mon mari a pris 6 mois avec sursis et une amende. Et le médecin, cette fois-ci, par contre, a pris 6 mois avec sursis et une amende aussi à payer. Pour faux et usage de faux qui ont conduit à mon internement en hôpital psychiatrique. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Il y a eu des moments de creux, mais j'ai retrouvé le sourire. Et je pense que quand mes enfants vont bien, quand je les vois aller mieux, du coup, ça se repercute automatiquement sur moi. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a beaucoup de beaux jours devant qui nous attendent, oui.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, interné sans consentement, un reportage d'Émilie Chaudet, réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Jean-Pascal, à Valérie, à Raphaël Maillère, à Benjamin Dessenac, à Corélie Gamet de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme et à Corinne Chauvel de la documentation de Radio France. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire. Very nervous. No one knew me. No one knew me. Hello, teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. Look right through me. And I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad.